La parole du jour avec Dominique Guilleux.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Grand Ciel. Nous retrouvons le père Jacques Potier, chapelain à la cathédrale de Chartres. Bonjour mon père.
Bonjour monsieur.
Avec lui, nous poursuivons toute cette semaine notre cheminement dans le chapitre 6 de l'évangile de saint Jean. Résumons les passages précédents. Après le miracle de la multiplication des pains, Jésus a engagé avec ses interlocuteurs et ses disciples un dialogue parfois déroutant pour eux, qui pour nous constitue une magnifique catéchèse sur l'Eucharistie. Écoutons ce passage de l'évangile de Jean que l'Église nous donnera à entendre demain, vendredi.
Au chapitre 6, versets 52-59, les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit lorsqu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm.
Mon père, on imagine que les interlocuteurs de Jésus, peut-être certains de ses disciples à la synagogue de Capharnaüm, ont dû être bien étonnés, parce que là, Jésus non seulement parle de sa chair, mais parle de boire son sang, ce qui sans doute est un élément nouveau dans cette présentation de Jésus de l'Eucharistie. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette dimension ?
Alors, évidemment, ça ne peut être qu'une lecture spirituelle que ces versets, boire le sang du Christ et manger sa chair. Or, il faut penser que, au chapitre 6, déjà, Jésus, cela est plus clair chez les synoptiques, Jésus annonce sa passion. Et donc, il veut peu à peu faire entrer ses auditeurs dans cette perception de son sacrifice qui va être violent. Hein, c'est-à-dire que le sang, vraiment, va se séparer donc au moment de sa mort. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans l'Eucharistie, on fait mémoire du corps et du sang. Et pour qu'il y ait la validité du sacrifice, il y a cette réalité de la séparation du corps et du sang qui ont lieu à la croix et qui sont rendus présents et qu'on offre au Père. Eh bien, c'est de son sacrifice qu'il faut se nourrir. C'est pas simplement d'une présence, si vous voulez, j'allais dire presque fantomatique, mythique, Jésus, Jésus. Mais qui est ce Jésus ? C'est celui qui a porté le péché du monde, qui a eu dans son corps la flagellation, le couronnement d'épines, qui est mort par amour pour prendre notre péché. Et c'est celui-là dont la violence a été extrême, de la faute des hommes. Mais comme l'amour a été beaucoup plus fort que cela, c'est cette victoire de l'amour sur cette réalité du péché qu'il veut nous communiquer. Et il faudra se nourrir de sa victoire. Il faudra se nourrir de cet amour qui, malgré la violence, a été victorieux parce qu'il s'est offert à son Père. Et c'est cela qu'il prépare ses disciples en disant que quand vous aurez à vous nourrir, non seulement dans la foi, mais aussi dans ce contact avec mon sacrifice que Jésus voudrait partager et montrer que c'est grand, c'est puissant et c'est beau. Alors évidemment, il y a le réalisme des paroles, mais ça montre aussi que justement jusqu'à quel point il veut, pour reprendre son expression, demeurer en nous. Et quelles que soient nos souffrances, nous nous rappellerons que par le fait qu'il a versé son sang, qu'il signe de son amour, sur Catherine de Sienne disait le sang, parce qu'elle est morte en disant le sang, parce que c'est l'amour, c'est le feu de l'amour, c'est l'Esprit Saint qui nous est donné dans le sacrifice.
Dans ce passage, Jésus fait référence à un autre pain, celui que les pères ont mangé. Et sans doute que les interlocuteurs, ça le comprenaient, mais il précise que eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra, dont il parle lui-même, vivra éternellement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour nos auditeurs, mon père, à quel pain Jésus fait allusion en parlant du pain que les pères ont mangé ?
Oui, de fait, c'est important de se rappeler ce que, justement, on souligne lorsque nous sommes dans le temps de la vigile pascale, les différentes étapes, et pendant le carême, hein, on s'est rappelé les différentes étapes du peuple de Dieu, et notamment dans la traversée du désert, il y a eu la tentation, bien sûr, du veau d'or, et puis aussi le fait, est-ce qu'ils vont arriver jusqu'au bout? Et ils ont eu faim, et donc heureusement que là il y a eu un signe, hein, à travers justement les buissons de bois et des petits arbres. Il y a eu comme une espèce de gomme qui venait le matin, comme une rosée un peu matérielle, une gomme qui ressemblait à des mie de pain. Donc ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est ? Manou, hein, ça donnait le nom de man. Et ça les a aidés à aller jusqu'au bout, et donc ils ont vu là que le Seigneur les aidait dans leur marche. Et c'était une indication de Dieu, hein, pour leur marche. Si bien que quand Jésus fait allusion qu'il y a le pain qui descend du ciel, il fait allusion à cette réalité que les Juifs ont vraiment intégrée. Oui, ils ont déjà reçu un pain qui descendait du ciel, parce que c'était donné gratuitement, mais ça ne doit pas empêcher de mourir, c'était quand même matériel. Eh bien, le Seigneur fait le parallèle, il dit, ben oui, il y a eu un pain, certes il venait du ciel, mais il était matériel. Eh bien, il y a un pain qui vient du ciel, mais il ne sera pas matériel. Il vous donnera une vie qui dépassera la mort. C'est pas simplement pour votre marche physique, c'est pour votre marche spirituelle, pour vous conduire à la terre promise, qui est le cœur de Dieu.
Je résiste pas, mon père, à vous poser une question concernant ce dernier ouvrage que vous venez de publier aux éditions Récias, qui s'intitule « La communion eucharistique, quelques parcelles de méditation ». Justement, tout ce chapitre de Jean nous conduit à l'Eucharistie. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre ouvrage que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies, en particulier la Procure?
C'est ça. Donc, il vient juste de paraître pour Pâques. En fait, j'ai voulu, si vous voulez, à travers la communion eucharistique, montrer la densité spirituelle de cette réalité. C'est-à-dire, justement, ne pas la détacher du mystère qu'on célèbre dans l'ensemble de la liturgie. Et comme la liturgie, c'est très, très riche, hein, on a beaucoup développé la parole, l'importance de la parole. On a aussi développé l'importance de la consécration. Mais le fruit de tout cela, c'est quand même la communion. Or, il y a cette réalité qui se vit pleinement, d'une façon très belle, mais aussi quelquefois un peu banale. Et je parlais quelquefois avec des jeunes ou des moins jeunes. Bon, quel est le fruit de la communion ? Par exemple, le sens de l'action de grâce, comment la vivre ? Donc, si vous voulez, j'ai établi différents points par rapport au point de vue théologique, la densité de ce mystère, et en même temps, au niveau pastoral et même pratique, comment réaliser par un geste le plus beau possible, et surtout, comment réaliser après, hein, c'est les conséquences de cette communion, puisque finalement c'est le cœur du Christ, c'est la charité, donc le lien avec les vertus, le lien avec toute notre vie chrétienne. Finalement, j'ai montré que c'était un centre qui ne pouvait pas se détacher de tout un ensemble de notre vie. Et donc, à partir de la communion eucharistique, je fais toute une réflexion sur la beauté du fait que le Christ traverse notre vie. Ça a des conséquences énormes. Il ne faut pas en perdre une parcelle, une miette de cette réalité qui ne peut pas être banale, qui ne peut être que sublime, merveilleuse. Merci Seigneur.
Merci mon père. Mais on est très, très impatients de découvrir votre ouvrage. Nous nous tournons en ce mois de mai vers Marie, en l'invoquant, ô Marie conçue sans péché.
Priez pour nous qui avons recours à vous.
À demain, chers auditeurs de Radio Grand Ciel.
Merci, chers auditeurs.